Vous écoutez France Culture.
Réplique Emmanuel Lévinas, penseur de l'amour, avec Didier Franck et Jean-Luc Nancy. Avec l'édition entamée en 2009 par les éditions Grasset, des œuvres complètes d'Emmanuel Lévinas, les lecteurs, qui se croyaient familiers de ce philosophe et que ses concepts envoûtants accompagnent depuis des lustres, ces lecteurs donc vont de surprise en découverte. C'est après les carnets de captivité, les conférences du Collège philosophique, un troisième volume d'inédits qui paraît aujourd'hui, et ce volume comporte, outre des notes philosophiques sur le thème d'Eros, les écrits poétiques de jeunesse en langue russe et deux ébauches de romans. Jean-Luc Nancy a rédigé la préface de ce volume et Didier Franck a consacré naguère un très bel essai à Lévinas, l'un pour l'autre. Voici donc ma première question. Quel éclairage les tentatives littéraires d'Emmanuel Lévinas apportent-elles sur sa philosophie et peut-être sur la philosophie ou une partie de la philosophie contemporaine en général? Jean-Luc Nancy.
C'est une question très difficile parce que on peut avoir d'abord envie de répondre que ces essais littéraires de Lévinas n'apportent pas beaucoup de lumière pour la suite de son œuvre. En grande partie, ils en constituent une sorte d'effet marginal dans une période où Lévinas est déjà, sans le savoir, peut-être déjà en train de préparer ce qui deviendra Totalité et Infini. Mais en particulier sur le motif de l'Eros. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que, à côté de bien d'autres thèmes qui sont eux aussi en germe, à la fois dans les cahiers de captivité et dans tout l'ensemble des textes de cette période-là, à côté d'autres thèmes qui seront repris dans Totalité infinie, il se trouve quand même le motif d'Eros occupe une place un peu marquée par l'abondance des notes philosophiques qui y sont consacrées et par le fait que Lévinas a voulu essayer d'écrire deux romans sur ce motif-là. Deux romans qui sont tous les deux pour la plus grande part du monde. Parce que ce n'est pas entièrement le cas du roman qui, sans doute, s'appelle Eros, à moins que le titre soit de l'opulence. Bon, ce n'est pas tout à fait le seul motif. Ils sont quand même consacrés à ça. Et moi, je dirais que si ça jette un éclairage, c'est sur le fait que, premièrement, en voulant écrire des textes littéraires, des romans, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Alors avant, dans le volume, il y a tous les essais poétiques de sa jeunesse, hein, qui sont, disons, bon, quelque chose de beaucoup plus traditionnel et très lié à la poésie russe, bon, qu'il connaissait évidemment très bien. En essayant d'écrire des romans, bon, Lévinas répond sans doute à quelque chose qui est dans l'époque, qui est l'époque de L'être et le néant de Sartre.
De la nausée, donc.
Je voulais dire de la nausée. Et qui sera ensuite celle de l'être et le néant. Et dans l'être et le néant, d'ailleurs, en dehors de l'aspect proprement philosophique et pas romanesque de l'être et le néant, c'est aussi un livre dans lequel il y a un certain nombre de pages, justement, sur Eros, sur la caresse. Et en revenant de captivité, évidemment, Lévinas a lu l'être et le néant. Mais il y a autre chose, et quelque chose qui pose alors une question que je suis absolument pas capable de résoudre, qui est la question: pourquoi, dans toute cette période, y a-t-il un rapport entre philosophie et littérature qui me semble un peu unique, qui doit avoir un caractère particulièrement français, mais qui a ensuite un caractère d'époque sur lequel il faudrait s'interroger. Bon, je ne peux pas répondre. Mais j'ai tout le sentiment que Lévinas, en essayant d'écrire des romans, et des romans sur le motif d'Eros, cherche la possibilité de dire quelque chose qu'il est impossible de dire philosophiquement. Je veux dire, vous écrivez de la philosophie, vous ne pouvez pas écrire que, je ne sais plus le nom du héros, se trouve à côté d'une jeune fille dans un abri pendant une alerte à Paris pendant la guerre et qu'il sent un grand désir l'envahir. Vous ne pouvez pas l'écrire comme ça. Vous pouvez parler du désir, mais vous ne pouvez pas décrire le désir en train de se... Et je crois que c'est ça qui a attiré Lévinas.
Didier Franck.
Je prendrais les choses un peu différemment, c'est-à-dire philosophiquement. Lévinas, il vient de la phénoménologie. Et la phénoménologie, ça consiste à penser qu'on accède à l'essence des choses à partir de la manière dont elles nous sont données. Et ça ne va pas sans des descriptions. Et Lévinas a assez profondément modifié la méthode descriptive en considérant qu'il fallait toujours décrire des situations concrètes, ordinaires, et laisser apparaître depuis ces situations concrètes, ordinaires, des concepts ou des significations idéales. Et d'une certaine façon, au fond, la prose romanesque est un exercice de ce type. C'est-à-dire que ça peut relever de la description phénoménologique quand elle est comprise de la manière que je viens d'indiquer. Et donc, je ne pense pas qu'il faille aller de la littérature à la philosophie, mais en quelque sorte faire le chemin inverse, c'est-à-dire comprendre les essais littéraires à partir de la manière dont Lévinas exerce la philosophie.
Pour aller dans votre sens, Didier Franck, je voudrais citer deux passages de Lévinas, l'un de son cours « Dieu, la mort et le temps ». La phénoménologie a commencé à trouver un sens à ce qui n'est pas cognitif. Le sentiment, l'acte ou la décision ont également un sens. Et puis, dans la préface qu'il a donnée à une réédition d'une de ses grandes conférences au collège de Genval, au collège de philosophie, « Le temps et l'autre », il dit « La phénoménologie husserlienne et grâce à Sartre et à Merleau-Ponty, la philosophie de l'existence » promettait des possibilités philosophiques nouvelles, les mots désignant ce dont les hommes s'étaient toujours souciés, sans oser l'imaginer dans un discours spéculatif, prenaient rang de catégorie. Donc il est vrai que c'est comme s'il y avait, avec la phénoménologie, toute une dimension romanesque dans la philosophie elle-même.
Sauf que la phénoménologie... en dehors, justement, de Sartre et de ses essais de Lévinas, ne s'est pas beaucoup écrite en roman. Bon, plus tard, Michel Henry aussi. Bon. Bien entendu, je n'ai pas du tout qu'entre l'intention, le projet phénoménologique et la description littéraire, il puisse y avoir une parenté. Mais, tout de même, la posture de celui qui décrit, du phénoménologue qui décrit, n'est pas du tout la posture de l'écrivain qui écrit. Et en plus, il faut ajouter que le premier roman de Lévinas, premier essai de roman, il faut toujours insister sur essai, bon, parce qu'en même temps, je crois que c'est quelqu'un qui fait l'épreuve qu'au fond, qu'il n'est pas fait pour ça. Mais il en avait l'ambition, hein, faut pas oublier, dans les cahiers de captivité, il y a mon œuvre, enfin, le programme de mon œuvre, un registre philosophique, un registre littéraire, et là, il met justement deux titres, qui sont les deux titres des romans, et un registre critique sur Proust, je crois. Oui, ce qui fait qu'il faut aussi dire au passage, Lévinas vient de la phénoménologie, oui, mais il vient avant Et en même temps, et je dirais presque aussi bien après, enfin ou simultanément, de la littérature. Lévinas, oui, Husserl, Heidegger, mais vous savez bien, Dostoïevski, Proust, James, enfin...
Bien sûr, et d'ailleurs, dans ses conversations avec François Poirier, il dit, il a cette phrase extraordinaire, « L'amour, sentiment, délire, c'est certainement là mes premières émotions philosophiques. » L'amour, sentiment, délire, sans doute la littérature russe, pour commencer d'ailleurs, Dostoïevski, Tchekhov, et puis Proust, auquel il a accordé tout au long de sa vie. Il dit aussi à un moment donné que toute la philosophie pour lui est peut-être une méditation de Shakespeare. Donc la littérature est très présente. Mais Jean-Luc Nancy, vous dites, il a compris après ces petites ébauches qu'il n'était pas fait pour la littérature. Or, vous remarquez dans votre préface qu'un mot crucial dans la philosophie de Lévinas, c'est le mot « intrigue ». Et quand Lévinas nous parle d'éthique ou d'éros ou d'amour, nous verrons les distinctions qu'il faut faire entre toutes ces dimensions de l'existence, c'est toujours sous la forme d'une intrigue. Son éthique est narrative, elle n'est pas prescriptive. Il raconte quelque chose, un événement sur lequel il revient inlassablement, la rencontre d'autrui, cette espèce de perte d'innocence et de nocence tout à la fois, la liberté ayant honte d'elle-même. Et c'est une... L'épiphanie du visage, c'est une rencontre, c'est toujours une intrigue. Donc, il est une sorte de romancier philosophe, s'il n'est pas du tout romancier.
L'écrivain, justement, l'écrivain ne parle pas d'intrigue. L'écrivain en invente une.
Oui. Bon.
Et voilà, pour moi, il se joue là une différence qui ne peut pas être résorbée. Et à laquelle, alors, je ne sais pas, peut-être moi, je suis aussi... sensible, alors peut-être parce que je me sens dans un, comme Lévinas, peut-être dans un rapport d'impuissance et de désir envers la littérature. Ah, or, qu'est-ce qui se joue là? Mais peut-être vous, Didier Franck, vous n'êtes pas dans ce rapport-là, mais il faut ajouter ceci. Le roman Eros, il est complètement autobiographique. C'est un jeune homme qui part à la guerre, etc., qui est prisonnier et qui revient de captivité.
Et qui voit la France disparaître sous ses yeux.
Et qui voit la France disparaître, oui. Bon, mais ça, disons, c'est peut-être justement même la partie la plus, on ne peut pas dire philosophique, mais comment la qualifier, enfin, c'est idéologique, si on veut, oui, parce que le début du roman décrit une France magnifique. Bon. Mais le deuxième roman, il n'est pas autobiographique, raconte l'intrigue, si c'est une intrigue, enfin la petite amorce d'intrigue, d'un homme qui, pendant la guerre, la femme, déclarée folle, folle, est internée. Et donc cet homme est sans femme. Et il se promène la nuit dans Paris en cherchant une femme. Et en nourrissant tous les fantasmes, les représentations de... Est-ce qu'il voudrait plutôt une prostituée ou pas une prostituée? Pourrait-il sauter sur une femme comme ça? Bon. Je me demande... Premièrement, je me suis demandé pourquoi cette intrigue, d'où vient-elle? Je suis à peu près persuadé que n'étant pas autobiographique, pseudo-autobiographique. Je suppose que c'est un compagnon de captivité de Lévinas qui a dû lui raconter quelque chose de ça. Ça ne s'invente pas si facilement. Hein. Et il y a quelque chose de très brutal si dans cette histoire. La première phrase, c'est la femme de... Je ne sais plus le nom du héros. La femme était folle. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on écrit ça? C'est-à-dire qu'on commence quelque chose qui n'est pas vraiment une description, mais qui est tout d'abord une dramatisation, ou qui est une description... qui utilise le moyen d'une dramatisation, bon, sans doute prise à une histoire vécue, mais on ne dit pas « je vais me servir d'un cas ». On entre là-dedans et après on décrit le personnage se promenant la nuit, cherchant des rues obscures pour ne pas se trouver en pleine lumière pour aborder une femme. Bon. Oui, voilà. Là, il se passe quelque chose qui ça crève. Ça crève l'écran de la description phénoménologique.
La femme de Simon était folle, internée dans une maison de santé. Elle berçait une poupée, fruit de l'immaculée conception, et aux instants de lucidité rares et enveloppés de folie, pleurait doucement sur son mari abandonné, dont les chaussettes devaient être trouées. Et son mari, Ribera, s'ennuyait au milieu, il y avait les premiers symptômes de sa folie, au milieu de toutes ces manifestations du sublime, puisqu'elle s'apprêtait à vivre, mais très gravement et très purement, les romans qu'elle avait lus. Non pas qu'il était sans délicatesse, mais il était sans amour. Il ne voulait pas blesser Suzanne par un bâillement. Et un peu plus loin, maintenant que la folle était enfermée, Ribeira connaissait la solitude comme une liberté. Voilà en effet un ton de romancier extrêmement, lucide et presque cruel, qui n'a pas d'écho, en effet, dans les œuvres postérieures d'Emmanuel Lévinas. Didier Franck.
Oui, je pense que là, sur ce point, vous avez raison. Je voudrais revenir sur la notion d'intrigue, parce que Lévinas l'a une fois définie. Intrigue, ce à quoi on appartient sans avoir la position privilégiée du sujet contemplant.
Voilà.
C'est ça qu'il nomme intrigue. Donc intrigue, c'est une structure dans laquelle le sujet est partie prenante et un sujet qui n'est pas le sujet souverain de la tradition de la philosophie subjectiviste. Donc si on entend l'intrigue de cette manière-là, on peut en trouver ailleurs que chez Lévinas. Il y a une intrigue de la question de l'être, il y a une intrigue, des intrigues ailleurs. Donc il s'agit donc de ce à quoi on appartient sans avoir la position privilégiée du sujet contemplant. Je pense que c'est une détermination très éclairante de ce qu'il entend par intrigue. Mais alors à ce moment-là, si vous voulez, c'est difficile, si l'intrigue est ainsi entendue, et là c'est une citation, donc si l'intrigue est ainsi entendue, il est difficile de la lier à l'intrigue littéraire.
Oui, en même temps.
Sauf par l'emploi du mot.
Et ça l'amène quand même, précisément, à raconter quelque chose. Puisqu'il revient sans cesse sur cette situation où le sujet va à ses affaires, gère ses intérêts, et se trouve soudain désarçonné par l'épiphanie d'autrui. Et ce sera évidemment le thème du visage. Donc pour le lecteur qui découvre Lévinas à 22 ou 23 ans, c'est un moment d'émotion particulier. Il allait lire un philosophe et il ne lit pas un romancier, mais il lit un philosophe qui lui raconte une histoire. Une histoire dans laquelle il est amené à reconnaître des choses. Alors, on s'interrogera sur quoi. Et évidemment, la surprise augmente quand on voit que la première manifestation de l'altérité dans l'œuvre de Lévinas, ce n'est pas le visage d'autrui, mais c'est le féminin. C'est le féminin. Il le dit dans le temps et l'autre, la notion d'altérité est d'abord recherchée à partir d'une altérité contenue, à partir de la féminité, et dans ses notes sur Eros, aussi bien ses notes philosophiques que dans les cahiers de captivité, c'est la rencontre essentielle, où tout d'un coup, justement, le sujet perd de sa superbe, il n'est plus maître des choses, à travers ses caresse, il touche un être qui ne cesse de se dérober à ses prises. Donc oui, première surprise, celle d'une philosophie narrative, et deuxième surprise, quand on connaît Lévinas et la très haute, très exigeante idée qu'il se fait de l'éthique, tout commence par Eros, tout commence par la différence des sexes. Je ne vois pas d'ailleurs ce que Lévinas aurait pu faire de la notion de genre, sincèrement. Je ne vois pas comment une quelconque indifférenciation dans ce domaine aurait pu lui plaire. Mais là, la première des différences, c'est la différence des sexes. La première expérience de la altérité, c'est l'expérience du féminin dans la volupté, dans l'amour charnel.
Alors,
Didier Franck.
En ce qui concerne le récit, du récit dans la philosophie, il y en a eu ailleurs
oui,
et avant.
Bien sûr.
Alors, en ce qui concerne le dernier point que vous avez évoqué, que la différence sexuelle ait joué à un moment donné, au début de l'œuvre de Lévinas, un rôle tout à fait décisif, c'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument première. La première différence, c'est la différence qui surgit et qui est décrite dans le livre qui s'appelle « De l'existence à l'existant ». La première différence, c'est celle qui surgit dans l'être même quand le sujet se constitue pour réfléchir l'être lui-même. Et ça, c'est la première différence. Et vous ne pouvez pas considérer la différence sexuelle comme première. Par contre, vous pouvez la considérer comme étant, au fond, la plus forte. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, d'accord.
Non, mais ça, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, on peut dire que le Eros, dans les textes de ce volume, moi je m'en tiens là, parce que c'est au fond ce que je connais. Non, je connais le reste, mais beaucoup moins que vous. Dans ces textes-là, Eros recouvre tous les rapports à l'autre, depuis la camaraderie, même le, je sais plus, il y a toute une gradation. Il y a le compagnonnage, la camaraderie, l'amitié, etc. C'est-à-dire que le prisonnier du premier roman de Eros, c'est-à-dire Lévinas lui-même, c'est copains de captivité, il y a les rapports avec les autres aussi, avec les gardiens du camp, etc., etc. Et le rapport aux femmes, oui, bien sûr, il vient toujours en quelque sorte. En plus de tout ça, il vient brocher sur tout ça et y ajouter alors proprement la dimension du désir. C'est-à-dire que les camarades, les amis ne sont pas désirés. Les femmes sont désirées.
Mais si vous me permettez de reprendre la parole, il y a un point qu'il ne faut quand même pas oublier, qui est le suivant, c'est-à-dire Lévinas, c'est un lecteur de Platon. Et Platon est omniprésent chez Lévinas. Et Eros, dans le Phèdre, c'est le nom de la transcendance. C'est le nom de la transcendance.
C'est le nom de la transcendance à partir de...
À partir d'une autre situation où la différence sexuelle n'est pas en jeu de la même façon, mais c'est
oui,
le nom de la transcendance.
Mais c'est la différence sexuelle.
Oui.
La description de l'émotion, pour dire le moins, de l'émoi, de
la
turgescence, dans le
fait, la turgescence,
l'oiseau dont exactement. Les plumes se hérissent, etc. Bon, ça c'est... ça. C'est pas un roman, mais ça pourrait se trouver dans un roman.
Mais dans cette situation du Phèdre, au fond, c'est pas la turgescence qui donne son sens à la transcendance, c'est l'inverse.
C'est
la transcendance qui donne son sens, etc. Donc, alors, je pense que quand Lévinas parle de l'éros, il a toujours présent à l'esprit le Phèdre.
Oui. C'est bien possible, mais ça n'est pourtant pas... Comment dire ? Alors, quel est le statut, si posons-le dans les termes, quel est le statut du rapport entre turgescence et transcendance ? Est-ce que c'est un statut de métaphore ? Est-ce que c'est un statut de renvoi de l'un à l'autre ? Et quand vous dites c'est la transcendance qui... Comment ?
Enfin,
comment ?
Il me semble
il reste que... chez Platon, pardon,
alors,
vous avez, dans le Phèdre, justement, il est bien question de la phronesis comme ce qui, ne se manifestant pas dans le sensible, susciterait de furieux élans amoureux si elle venait à paraître.
Oui, mais Lévinas dit dans les carnets de captivité, un élément essentiel de ma philosophie, ce par quoi elle diffère de la philosophie de Heidegger, c'est l'importance de l'autre. Eros comme moment central de la découverte d'autrui dans la volupté quand même. Parce que même si Eros recouvre toutes sortes de comportements, de dispositions, etc., c'est de la volupté le plus souvent que parle Lévinas, dans ses notes aussi dans Totalité infinie, il y a cette analyse de la caresse qui diffère complètement de celle de Sartre. Sartre dit dans « L'être et le néant » que précisément il faut traiter la sexualité comme une dimension capitale de la condition humaine. Donc il faut la prendre au sérieux. Elle ne vient pas de surcroît à la condition humaine, dit-il. Et il regrette que chez Heidegger, le Dasein soit, en apparence, asexué. Mais la caresse, c'est une stratégie d'appropriation, puisque l'autre me regarde, en me regardant il m'objective, je voudrais renverser le rapport, donc je l'incarne par la caresse, je l'empâte, et ainsi rêvais-je de m'emparer de lui, en quelque sorte. Avec Lévinas, c'est tout à fait différent. La volupté est une expérience étrange, si on peut employer le mot d'expérience, c'est-à-dire l'autre se dérobe à mesure, même dans sa nudité. C'est-à-dire, j'ai beau profaner la nudité de la femme, elle m'échappe, cette nudité, à quelque chose d'inviolable. Quand bien même, je la violerais, en quelque sorte. Il y a une sorte, en effet, de mystère du féminin qui ne se dévoile jamais. Et donc, on a là, malgré tout, en effet, avec l'Eros, une sorte d'accès à la transcendance. Et vous parliez de Platon, Didier Franck, mais Lévinas ne cesse d'écrire que ce qu'il a découvert dans l'Éros, aussi bien d'ailleurs que dans l'amour au sens affectif du terme, c'est que la dualité est meilleure que la fusion. C'est-à-dire, justement, il n'y a pas cette idée de l'androgyne, il n'y a pas cette idée qu'on est deux pour faire un, on est deux pour creuser la différence entre l'un et l'autre. Et bon, je voudrais d'abord savoir si vous êtes d'accord avec cela, et puis ensuite, peut-être pourrions-nous étudier le passage de cette érotique de Lévinas à l'éthique lévinassienne.
Mais je suis d'accord, mais au fond, si j'ai bien compris, ça revient à dire l'accent porté sur la dualité allant contre la fusion, ça revient à dire que c'est la transcendance elle-même qui fonde l'éros.
Absolument.
Et dans le volume dans Totalité infinie, toute la phénoménologie de l'éros consiste à montrer cela et à montrer que là même où on pourrait penser que s'accomplit la fusion, la même, c'est la transcendance qui donne son sens à l'éros. C'est un point, il me semble, permanent.
Oui, bien sûr. La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme. C'est une marche à l'invisible. Il parle même d'une virginité à jamais inviolée du féminin. Le découvert ne perd pas dans la découverte son mystère, le caché ne se dévoile pas, la découverte profanation se tient dans la pudeur, fût-ce sous les espèces de l'impudeur, le clandestin découvert n'acquiert pas le statut du dévoilé. Oui, c'est effectivement l'épreuve dans la jouissance de la transcendance même.
Oui, mais alors, ce qui me semble important, s'agissant des textes et des textes littéraires de cette époque, c'est la seule chose dont je puisse parler, en fait, parce que je me suis occupé de ce volume, à cause de ça, justement, à cause de la surprise et de que j'ai éprouvée quand j'ai découvert l'existence de ces textes, et du sentiment, quand même, d'un certain décalage entre ce Lévinas-là et le Lévinas ultérieur de Totalité et Infini. Alors, certainement, vous ne serez pas d'accord avec ça, Didier Franck, mais et ce décalage, je le vois dans le fait que cette révélation de la transcendance dans la jouissance, mais dans Totalité et Infini, elle va de manière très marquée, soulignée, etc., aboutir à la paternité. La paternité est déjà présente dans les textes dont nous parlons, mais c'est justement par rapport à la paternité et donc aussi à la volupté, pour reprendre le mot qui est plutôt celui de Lévinas, en effet, qu'il y a un décalage. Alors, il y a un passage des notes où il écrit que la volupté ne se réduit pas, comme le disent les hédonistes, à l'instant, mais elle va plus loin, elle dépasse l'instant, et il finit par dire qu'elle le dépasse dans une résurrection dans l'autre. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un terme qui est judéo-chrétien, mais qui est quand même un peu plus chrétien que juif, bien qu'il soit aussi juif. C'est très délicat. Enfin, il y a ça. Il écrit ça. Résurrection dans l'autre. Immédiatement suivi de toute volupté et promesse de volupté plus grande, toujours plus grande. Et puis, immédiatement après, promesse jamais tenue. Bon, donc, mais je crois qu'il y a, on peut suivre toute une, comme ça, une évolution qui n'est pas du tout linéaire, qui est en ondulation, comme ça, quant au rapport du désir, du plaisir, comme ouverture à la transcendance, et de la nécessité de dépasser tout ça dans la paternité.
Dans la fécondité,
là, je crois que oui, dans la fécondité. Donc, il y a eu, à mon sens, il y a eu un infléchissement chez Lévinas entre cette époque-là, disons l'époque, jusque les premières années après la guerre, et la suite. On peut chercher beaucoup de raisons. Évidemment, c'est après la guerre, la découverte de Descamps, la découverte aussi de ce qu'est devenue la société, ce qui est marqué à la fin du roman Eros, une espèce d'immense dégoût devant... C'est surprenant quand on lit ça aujourd'hui. Il revient en France et il y trouve... Il décrit une société de consommation. Il se moque de la publicité. Bon. Tout ça, il y a aussi une conférence qui est publiée dans le deuxième volume, une conférence sur Freud, ou peut-être pas sur Freud, mais où il parle de Freud et où apparemment là, il découvre Freud vraiment comme la réduction au sexuel. Donc tout ça, ça semble l'avoir un peu tenu comme ça, en retrait. Et puis c'est aussi les années où il va suivre l'enseignement de ce maître là dont...
Chouchani.
Oui,
ce
voilà.
Ce maître du Talmud, Chouchani, oui. Il a un peu mis la philosophie entre parenthèses.
Voilà, moi je n'ai pas de thèse là, si vous voulez. C'est simplement, je crois... Alors, si on fait une description phénoménologique de Lévinas à travers toutes ces années, je crois qu'on doit enregistrer un certain bouger. Voilà.
Oui, c'est possible.
Et que ce bouger se fait ensuite, se fait aussi sur le fond, justement, du rapport de la philosophie à la littérature et du rapport de la philosophie à la question érotique, qui est quand même un rapport relativement nouveau à l'époque, qui, en effet... n'a pas été ouvert par Heidegger, ni par Husserl, même s'il y a des textes chez Husserl, oui, mais alors Lévinas ne pouvait pas les connaître. Hein,
ça, je ne suis pas tout à fait sûr.
Je ne crois pas. Je pense que c'est dans des inédits qui ont été publiés après coup. Mais avant, il faut... Enfin, vous voyez bien, ça ouvre aussi toute la question de savoir du Phèdre de Platon jusqu'à quoi ? Peut-être Nietzsche et Kierkegaard, chez qui quelque chose ressort. Il y a quelque chose que Marion a appelé un oubli de l'éros parallèle à l'oubli de l'être. Je ne sais pas du tout si ce parallèle est fondé, mais il faut rendre compte de quelque chose. Où est passé l'éros de Platon entre Platon, pour simplifier beaucoup, entre Platon et Nietzsche. Bon.
Oui, alors,
même entre Platon et le Descartes qui ajoute le mot amour, la définition de la pensée. Où est-il passé ? Moi, je crois qu'il est passé dans une libido siendi qui a recouvert l'autre libido. Et que là, dans l'époque où Lévinas écrit ses essais de romans, quelque chose sort. Là.
Oui, quelque chose surgit, oui.
Il y a plusieurs problèmes qui se mêlent.
Oui,
il y a une question sur l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas le sujet du jour.
Pourquoi pas
mais pour revenir à Lévinas, qu'il y ait ce que vous appelez bouger, n'est-ce pas ? Je suis d'accord, mais au fond, dans la description de totalité infinie, il est souligné très fermement que l'éros est le lieu de l'équivoque, par excellence. Et donc, au fond, en disant cela et en insistant sur ce point, n'est-ce pas ? Et en déployant cette équivocité dans toutes ses dimensions, on retrouve sous une forme, alors là, proprement philosophique et philosophiquement assumée, tout ce que vous êtes en train de dire sur, au fond, ce qu'il y aurait de plus ou d'autre dans les essais romanesques.
Alors, mais justement...
D'accord, mais justement, l'équivoque, je ne crois pas qu'elle apparaisse dans les textes du volume, là. Je crois que justement, elle lui apparaît...
Plus tard. Mais c'est là-dessus que
Parce
je voudrais...
Parce que l'équivoque, c'est un mot lui-même... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est équivoque.
Oui, mais c'est louche. Justement, alors, le louche. Mais justement, c'est là-dessus, c'est là-dessus que je voudrais... C'est
le louche, dans les... Voilà, juste ça, dans les essais de romans, le louche est en quelque sorte assumé et pas du tout dénoncé.
Mais il n'est pas dénoncé.
Pas dénoncé.
Il n'a jamais été dénoncé.
Non, mais dire équivoque,
il appartient
déjà...
à la fausse même.
Mais oui. C'est là-dessus que j'aimerais que nous nous arrêtions un peu. Parce que il y a chez Lévinas une description non équivoque, si j'ose dire, de l'éros comme mode d'accès à l'altérité. Et la différence du féminin et du masculin joue un rôle crucial. Il y a aussi des réflexions sur l'amour-sentiment. Quand il dit « la relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité, la socialité est meilleure que la fusion, la valeur même de l'amour est l'impossibilité de réduire l'autre à moi-même, de coïncider dans la similitude. » Bien. Et puis, il y a ce qui se déploie hors de tout équivoque, de totalité infinie à autrement qu'être au-delà de l'essence, et c'est un peu l'essentiel de votre livre, le thème de l'un pour l'autre, l'amour sans concupiscence, et je voudrais savoir comment se fait ce passage, parce que le lecteur de Lévinas, lui, quand même, ne peut pas cesser de référer la description hyperbolique de l'éthique par Lévinas à l'expérience amoureuse ou à l'expérience érotique. Quelle meilleure description de la passion que malgré moi pour un autre. C'est la passion même, le l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, Lévinas est amené à le dire, l'un pour l'autre, ça va jusqu'à avoir plus peur de la mort de l'autre que de la sienne. C'est à travers la mort de l'autre qu'on fait l'expérience de la mort, dit-il, l'être pour la mort, mais c'est la peur de la mort de l'autre. Mais ça, c'est quand même dans l'amour qu'on l'éprouve particulièrement. L'idée que, voilà, on ne veut pas survivre à la personne qu'on aime. Donc, il veut se défaire de tout équivoque, mais il me semble que l'équivoque demeure dans les descriptions hyperboliques qui sont les siennes. Eros est toujours là, et ça contribue, je crois, à l'envoûtement la pensée au caractère envoûtant de la pensée de Lévinas. Didier Franck.
Alors, une citation pour commencer, à propos de l'amour qui se trouve dans Totalité infinie. L'amour ne transcende pas, et donc il s'agit de l'amour de l'éros, c'est dans la section phénoménologie de l'éros. L'amour ne transcende pas sans équivoque, il se complaît, il est plaisir et égoïsme à deux. Bon. Ce qui n'est quand même pas simplement
oui.
un éloge.
C'est pas un éloge, d'accord.
Bon. Mais ce qu'on pour revenir sur ce que vous avez dit, vous, n'est-ce pas ? Tout dépend de l'ordre dans lequel on lit, c'est-à-dire que si on lit à partir de l'expérience amoureuse et qu'on va de l'expérience amoureuse à la transcendance éthique, on ne peut pas manquer de dire ce que vous dites. Mais il me semble que le mouvement doit être inverse. C'est-à-dire que, comme la transcendance éthique a la priorité, comme c'est dans la transcendance éthique que se joue la signification, la signifiance en général, etc., c'est de cette transcendance éthique qu'il faut en quelque sorte redescendre. Vers l'expérience, l'amour-sentiment. Et c'est à la lumière de cette transcendance éthique que Lévinas peut décrire l'amour-sentiment comme il le fait. Tout dépend, n'est-ce pas, au fond, de la direction du regard. Si vous allez de l'amour-sentiment à la transcendance éthique, vous verrez ce que vous avez décrit. Si on fait dans le sens inverse, on verra autrement.
Oui, Didier Franck, mais je vous lis une autre citation. « Ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté amour, et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. » Et en même temps, il déploie à partir de là toute une réflexion sur la mort où l'autre tente à devenir n'importe quel autre. Ou, au fond, c'est l'idée que, oui, on est toujours coupable de survivre à qui que ce soit, en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose... Vous voyez, c'est comme si le thème de l'un pour l'autre, enraciné dans une expérience précise qui est celle de l'amour, eh bien, se déployait, se généralisait hors de cette expérience, mais son origine ne peut pas être oublié par le lecteur.
Oui, mais c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où voilà. Je ne serais pas d'accord, parce que Lévinas le dit à plusieurs reprises, l'autre, c'est le premier venu.
Voilà.
C'est-à-dire n'importe qui.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, la relation amoureuse n'a pas de priorité.
Oui.
Il faut que ce soit le premier venu. Et toute la puissance de la description tient au fait que c'est le premier venu. Parce que si c'est quelqu'un que j'ai choisi, la description ne vaut plus. Ça n'a pas la même force. D'abord, ça n'a pas la même force de contrainte. Mais de toute façon, il insiste sur ce terme. L'autre, c'est le premier venu. N'importe qui.
Oui, mais lire, l'expérience de la lecture, c'est les choses font résonance. Et ça fait résonance aussi parce qu'on pense à des situations où on pourrait être affecté par la mort de l'autre. Et ces situations-là, c'est pas le premier venu. Alors, pour dire les choses autrement, je me demande s'il n'y a pas une équivoque dans l'écriture de Lévinas, et si cette équivoque ne fait pas l'essentiel de son charme.
Oui,
Jean-Luc Nancy.
Qu'il y a une équivoque, qu'il y a d'ailleurs, ça a été remarqué et étudié un peu par plusieurs, un caractère si on veut, littéraire, étrange de l'écriture de Lévinas, qui, en venant de Husserl et de Heidegger, n'écrit absolument pas comme eux, qui invente son...
Il y a certaines leçons de Heidegger qui ont été retenues.
Oui. Mais quand même, il s'invente son registre, son vocabulaire. Mais, bon, si vous voulez, moi, je me permettrai alors de sauter un peu un point un peu extérieur pour éclairer la chose. Le point extérieur, c'est que à un moment donné, en 83, Blanchot a écrit un texte adressé à Lévinas. Et ce texte, il l'a entièrement repris dans la deuxième partie de La Communauté inavouable. Parce que le texte tel qu'il a été publié d'abord dans Le Nouveau Commerce, bon, personne ne le connaît comme tel, mais c'est exactement le même texte qui fait la deuxième partie de La Communauté inavouable. Et donc, ça, je connais bien, je viens de travailler oui. justement là-dessus. Que, si, en résumant à outrance, qu'est-ce que Blanchot adresse à Lévinas ? Il lui adresse une sorte de défi. Il lui dit, le rapport à autrui peut être ce que vous en dites ou ce que tu en dis, puisque c'était le seul ami tutoyé, peut être ce que tu en dis, encore plus et encore mieux, selon la passion, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de passion, Alain Finkielkraut, et je le montre en faisant une lecture du texte de Marguerite Duras, La maladie de la mort. Bon, je passe sur le texte de Blanchot. Ça, bon, je ne peux pas le montrer là en deux minutes, mais le texte de Blanchot procède d'une opposition systématique entre Lévinas, penseur de la loi, avec un tout petit correctif à un moment qui consiste à dire c'est plus les commentateurs que Lévinas lui-même, mais enfin, bon, la loi est clairement identifiée aussi au judaïsme par Blanchot. Alors, en toute ouverture, sympathie, etc., mais pour dire, moi, je dis que la passion va plus loin que la loi. Voilà, je résume encore une fois, bon, de manière brutale, mais bon. Je remarque une chose, c'est que Lévinas n'a jamais répondu à ce texte de Blanchot qui lui était adressé. Évidemment, dans sa version la plus connue, la plus publique, c'était La Communauté inavouable. Alors, le motif de La Communauté venait peut-être obscurcir tout ça. Mais d'abord, ça a apparu en article, détaché, adressé, dédié à Lévinas. C'est un texte entièrement qui déplie Lévinas pour dire ah, « je pense autre chose ». Lévinas n'a jamais répondu. Alors, pourquoi c'est évidemment, je ne sais pas la réponse, mais vraiment, je suis très tenté de penser que Lévinas se disait, au fond, je ne sais pas très bien quoi répondre, parce que ça me rappelle, Blanchot me rappelle quelque chose qui était peut-être plus présent pour moi, disons, jusque dans les années de 50. Et en effet, j'ai dévié par rapport à ça, bon... Et je... Bon, qu'est-ce que Lévinas pouvait penser pour, en tout cas, pour ne pas répondre à cette espèce d'interpellation qui, en effet, qui le ramenait alors devant un récit, pour le coup, le récit de Duras, qui est un récit, alors qu'on ne peut certainement pas dire érotique du tout, mais qui a des passages, surtout des passages sur la jouissance de la femme qui sont très...
Peut-être que Lévinas ne voulait pas justement dissiper l'équivoque. Cet équivoque oui, dont je parle.
Pas répondre,
cette
pas
possibilité, répondre, pas ce, fait que, pas répondre. Ce fait que mais on peut lire érotiquement, si j'ose dire, la description éthique de Lévinas.
Alors ça, je ne pense pas, mais je vois bien que c'est entendu. Ce que vous voulez suggérer, mais je ne pense pas. J'ai sous les yeux une autre citation qui va peut-être répondre. Contribue à répondre. Il est question, je coupe un peu la phrase. Gravité de l'amour du prochain, tiret de l'amour sans concupiscence, à laquelle s'appuie la signification congénitale de ce mot usé, et que présupposent toutes les formes littéraires de sa sublimation ou de sa profanation. Donc, au fond, c'est ce que je ne cesse de vous dire, c'est-à-dire la transcendance éthique qui est le noyau de l'intelligibilité. Et le projet de Lévinas, c'est bien de construire une nouvelle intelligibilité. Cette transcendance-là, elle est présupposée par tout le reste.
Elle est présupposée par tout le reste. Et en même temps, il va la chercher chez Proust. Oui. D'ailleurs, refusant une lecture immédiate de Proust, la lecture solipsiste de l'amour, il dit non, c'est une sorte d'épreuve, d'expérience de la transcendance. Et donc, c'est donc toujours dans l'amour-sentiment qu'il va trouver comme une preuve de l'existence de cette nouvelle intelligibilité.
L'amour-sentiment porte la trace voilà, de la transcendance.
Voilà. D'où, pour moi, le fait que la transcendance porte un peu la trace aussi de l'amour-sentiment. C'est pas la même chose. Mais il y a un autre... Oui,
oui mais quand même, moi, je voudrais savoir comment on comprend amour sans concupiscence. En effet, je crois que toute la question, elle est là, disons, entre les mots concupiscence, jouissance, volupté, désir, plaisir. C'est justement à propos du désir qu'il me semble que chez Lévinas, il y a justement le bouger dont je parle. Dans De l'évasion, par exemple, il accorde au désir une capacité d'infini qu'ensuite il ne lui reconnaît plus
toujours. Si, le désir, c'est le désir de l'infini.
De l'évasion, dans De l'évasion, l'échec du désir dans le plaisir est un peu différé, je dirais, écarté, décalé, un peu comme dans les notes d'ailleurs sur Eros. Plus tard, justement, la satisfaction, jouissance, appropriation, donc résultat, on veut, de la concupiscence, est plus marqué quand même. Et c'est par rapport à ça qu'il faut passer à la fécondité.
Oui, mais vous dites désir métaphysique. Alors moi, je veux bien, c'est vrai. C'est tout début de Totalité infinie. Magnifique phrase, le désir métaphysique n'aspire pas au retour. Il est désir d'un pays où nous n'acquîmes point. Le désir métaphysique, il est comme la bonté. Le désiré ne le comble pas, mais le creuse. Et là encore, l'équivoque revient, si vous voulez. Dans les plus belles manifestations du désir, c'est ce qui se produit aussi. C'est ce qui se produit aussi. Donc, on est toujours un peu dans l'érotique, même quand on est dans la métaphysique, et même quand il s'agit de la bonté.
Mais peut-être, mais au fond, cet éros n'est pas à lui-même sa propre lumière.
Voilà.
Il reçoit, si on garde le terme de lumière, qui n'est pas tout à fait approprié ici, il reçoit sa lumière d'ailleurs. Et au fond, c'est quand même la thèse constante. On ne peut pas effacer cette thèse, c'est réduire Lévinas à rien. C'est-à-dire, sa thèse fondamentale, si vous pouvez parler comme ça, c'est quand même la transcendance d'autrui sous sa forme la plus rude et la plus dure, parce que c'est quand même très dur.
C'est très dur. C'est très dur.
Commande tout le reste.
La transcendance d'autrui, et en même temps, il y a un paradoxe extraordinaire de cette transcendance, je voudrais que nous parlions pour les quelques minutes qui nous restent, parce qu'elle se lie, se vit aussi dans la fragilité, la vulnérabilité. La vulnérabilité d'autrui, c'est son vieillissement. Là, il y a très peu de descriptions du visage, sauf celle-ci, la peau aride, trace d'elle-même, présence qui à tous ces instants est une retraite dans le creux de la mort, avec une éventualité de non-retour. Il y a cette idée-là que la mortalité d'autrui fait aussi sa transcendance, parce que c'est par sa mortalité aussi qu'il m'échappe. Il peut ne pas revenir. Et, dit Lévinas, c'est ainsi que Dieu vient à l'idée. La dimension du divin s'ouvre à partir du visage humain, mais à partir de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de sa mortalité. Et quand on y réfléchit, c'est incroyable. Je crois que Derrida en a parlé. Il a dit que la différence entre l'autre comme Dieu et l'autre comme mort s'efface sous la plume de Lévinas. Mais oui, puisque Dieu vient à l'idée à travers la mortalité du prochain et une mortalité sans consolation. On ne se dit pas c'est la vie éternelle. Que faire de cette étrange transcendance-là, de cet étrange au-delà, puisque la transcendance c'est l'au-delà, et c'est cet au-delà qui n'est pas un séjour et qui ne console pas de la mort, puisqu'il est en quelque sorte la mortalité même, Didier Franck. Ça vous surprend ce que je dis
hein ? Non, pas... Mais d'abord, alors là, il y a, à mes yeux, un problème, au fond, que Lévinas n'a jamais vraiment maîtrisé. C'est celui auquel vous faites référence, de la mort d'autrui. C'est-à-dire que... et ça ressort en particulier dans le texte tardif qui s'appelle « Mourir pour ». Où il veut absolument montrer que le mourir pour l'emporte en droit, bien entendu, précède en droit la mienneté de la mort, le caractère absolument mien, insubstituable. Bon. Et sur ce point, je n'ai jamais été convaincu. Je n'ai jamais été convaincu que le mourir pour puisse annuler la priorité de ce que Heidegger appelle la mienneté de la mort, c'est-à-dire le fait que même si je meurs pour, c'est toujours moi qui meurs. Et ça, c'est insubstituable. Et tous les énoncés, comme ceux que vous citez, me semble-t-il, au fond, reposent sur cette ambiguïté, mais là, philosophique. C'est-à-dire le fait qu'il n'a jamais pu, absolument à mes yeux, mais on peut discuter, établir la priorité du mourir pour sur le caractère absolument mien de la mort.
Jean-Luc Nassy, pour finir.
Oui, non, mais je ne peux que reposer ma question. Amour sans concupiscence.
Qu'est-ce que ça veut
dire? Je demanderais plutôt, est-il possible qu'il y ait une concupiscence sans amour? Que veut dire concupiscence? J'ai l'impression que c'est ça la question à laquelle, que veut dire concupiscence, que veut dire désir? C'est une question qui se réouvre toujours pour Lévinas, comme peut-être pour tout le monde, et que aucun appel à la transcendance ne pourra non seulement résoudre ni fermer, mais ne peut faire que raviver.
Mais il y a une réponse à la question amour, qu'est-ce que veut dire amour sans concupiscence?
Alors vous la donnez,
la réponse,
et l'émission termine.
Responsabilité.
Voilà.
Oui, d'accord.
Alors, oui, nous resterons sur cet échange.
C'est pas amour.
Sur cet échange, est-ce que c'est l'amour? Oui, justement.
Ah, mais voilà.
Beaucoup de questions ont été soulevées, toutes n'ont pas été résolues. Donc je voudrais renvoyer les auditeurs au troisième volume des œuvres complètes d'Emmanuel Lévinas, Eros, littérature et philosophie, aux éditions Grasset. C'est un volume publié sous la responsabilité de Jean-Luc Nancy et de Daniel Cohen-Lévinas. Je voudrais citer également L'un pour l'autre, Lévinas et la signification, le livre de Didier Franck publié aux presses universitaires de France, et La communauté inavouable de Maurice Blanchot, un livre disponible aux éditions de Minuit, commenté aujourd'hui par Jean-Luc Nancy dans La communauté des avoués chez Gallidet. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Pensée avec Montaigne ». Mes invités seront Frédéric Brahami et Pierre Manant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Catherine Déréter. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.